tous à la une de l'actualité, le 253e jour de guerre. À minuit pile, le Hamas a fêté le passage à l'année civile 2025 à sa façon. Les sirènes d'alerte à la roquette ont retenti en Israël dans la région du Negev. Correspondance à Jérusalem d'Olivier Granilic.
Le Hamas choisit une manière dramatique de marquer le passage à la nouvelle année. Et peu après donc minuit, les sirènes d'alerte ont retenti à Netivot et dans les localités voisines. Et selon Tzahal, deux roquettes ont été tirées depuis le centre de la bande de Gaza. L'une a été interceptée et l'autre est tombée en zone ouverte. Peu de temps après, le colonel Avishai Adrei, le porte-parole de l'armée israélienne en arabe, a lancé un avertissement d'évacuation aux habitants de 4 blocs. Et cet avertissement survient après de multiples rappels concernant l'utilisation de cette zone pour des tirs de roquettes.
Notre correspondant à Jérusalem, Olivier Granilic. L'armée israélienne et le Shin Bet ont éliminé l'un des commandants des forces d'élite du Hamas, celui qui a dirigé l'infiltration dans le kibboutz de Nir Oz lors des massacres antisémites du 7 octobre. Il a aussi mené plusieurs autres opérations contre les forces israéliennes à Gaza. Abd al-Asaba, c'est son nom, a été visé lors d'une frappe à Khan Younes. L'élimination de ce commandant du Hamas n'est qu'une étape vers la justice, affirment les responsables du kibboutz de Nir Oz. Peu d'espoir concernant un accord pour la libération des otages. C'est ce dont témoignent ce matin dans le Wall Street Journal des responsables arabes. Le Hamas, lui, réclame une pause de 7 jours dans les combats pour faire la liste des otages, toujours 100 retenus dans la bande de Gaza. Le groupe terroriste affirme que sans cette trêve, il n'est pas en mesure de produire la liste des otages encore vivants. Oui, mais voilà, Israël y tient de crainte que le groupe terroriste ne puisse en tuer entre la conclusion de l'accord et de leur libération. De son côté, Donald Trump a réitéré hier soir ses menaces contre les groupes terroristes palestiniens. Je vais le dire ainsi, il fera mieux de laisser les otages revenir bientôt, a-t-il affirmé. Les forces de défense israéliennes ont mené hier une frappe aérienne contre une cellule du Hezbollah dans le sud Liban. Cellule qui transférait des armes d'un entrepôt vers un véhicule. Tzahal a indiqué que le véhicule et le dépôt d'armes avaient été frappés. Politique, Benjamin Netanyahou de retour à l'hôpital Hadassa. Il a quitté sa chambrière pour quelques heures et contre l'avis des médecins après son opération de la prostate. Le Premier ministre a voulu prendre part au vote d'une loi clé relative au budget de l'État. Il faut dire que le texte a été adopté de justesse par 59 voix contre 58. Et Itamar Ben-Gvir a voulu faire barrage au texte en affirmant que son collègue des finances refusait une augmentation des forces de police, des salaires des forces de police, faute d'adoption du budget en Israël. Le gouvernement Netanyahou risque de tomber. Antisémitisme, un homme armé arrêté pour avoir planifié d'attaquer un bureau de l'AIPAC en Floride aux États-Unis. Le lobby américain pro-israélien remercie le FBI d'avoir déjoué l'attentat. Nous prenons ces menaces très au sérieux et nous ne nous laisserons pas décourager par les extrémistes dans notre mission visant à renforcer les relations avec Israël. C'est ce qu'ont déclaré les responsables de l'AIPAC. Les vœux d'Emmanuel Macron, le président de la République qui s'est prêté pour la 8e fois à l'exercice hier soir et pour la première depuis la nomination de François Bayrou comme Premier ministre. Emmanuel Macron a fait son mea culpa sur son initiative de dissoudre l'Assemblée nationale. Emmanuel Macron.
Je dois bien reconnaître ce soir que la dissolution a apporté pour le moment davantage de division à l'Assemblée que de solutions pour les Français. Si j'ai décidé de dissoudre, c'était pour vous redonner la parole, pour retrouver de la clarté et éviter l'immobilisme qui menaçait. Mais la lucidité et l'humilité commandent de reconnaître qu'à cette heure, cette décision a produit plus d'instabilité que de sérénité, et j'en prends toute ma part. L'Assemblée actuelle représente néanmoins le pays, dans sa diversité et donc aussi dans ses divisions.
C'était le président de la République Emmanuel Macron lors de ses vœux hier soir pour la nouvelle année civile, l'année 2025. Bonne année civile à toutes et à tous d'ailleurs.
Radio G.
Radio G.
Le 10-11.
Le 10-11.
Lise Gutmann.
Radio G.
Radio G.
Les invités de Lise Gutmann.
Radio G.
Et ce
ce matin, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Didier Zuilly pour sa série de livres sous forme de BD, Varsovie, Varsovie. Alors, on va essayer de le faire dans toutes les langues, Varsovie, Varsovie, en yiddish, ensuite en hébreu, Varsha, Varsha. Et je vous laisse, Didier Zuilly, bonjour, nous le dire peut-être en polonais.
Varsava, Varsava.
Voilà. Merci d'être avec nous, cher Didier, pour ce livre. Alors, ce sont des livres très conséquents. J'en ai apporté un. Je vais faire rire tout le monde. Évidemment, j'ai choisi l'exemplaire en yiddish, Varshe, Varshe, mais j'aurais pu apporter évidemment l'un des quatre. Alors. Est-ce qu'on peut dire c'est une BD ou alors c'est autre chose pour vous?
Ben, en fait, bonjour et vraiment très très content. Merci de me recevoir.
Avec plaisir. Pour parler,
ben, en fait, c'est un travail qui m'a pris 4 années et je pense qu'à la question si c'est une bande dessinée ou c'est autre chose, forcément. C'est au service de quelque chose.
Alors moi je dirais, alors est-ce qu'on peut dire que quand même c'est un roman graphique? C'est ce qu'on dit quand c'est pas uniquement de la BD.
C'est vrai, oui, effectivement, moi j'aime bien ce, il y a un côté plus noble entre guillemets, comme oui. Si la bande dessinée était plutôt pour les enfants, bien qu'on ait dépassé un petit peu ces schémas. Mais oui, on peut dire que c'est un roman graphique, tout à fait. On peut dire ça.
Voilà. Absolument. Donc c'est un roman graphique, mais également historique. Pourquoi Varsovie, Varsovie? Au départ, c'était en français. Que racontez-vous dans ce roman graphique? Et qui a fait les dessins? Racontez-nous.
Alors, en fait, la création français en 2013 de la bande dessinée en français, donc effectivement, elle est née d'un livre de Samuel Kassoff, qui est un livre remarquable que je conseille à tout le monde de lire, que bien sûr, Lise, vous connaissez, qui s'appelle « Qui écrira notre histoire ?».
Oui.
Le livre de ce romancier Kassoff, Samuel Kassoff, raconte effectivement la trajectoire et le combat magnifique et héroïque de Emmanuel Regalbium, qui était un historien à Varsovie.
Il était historien archiviste et c'est ça qui fait qu'on en parle encore aujourd'hui.
Tout à fait, oui. Tout à fait. Il a été beaucoup un grand. Il était au centre aussi de travailleurs sociaux aussi. Il n'a pas été qu'un intellectuel.
Oui.
Et donc en fait, le point de départ donc de ce livre, c'est la découverte de Manuel Regalbium, que j'avoue, en 2000, je ne savais pas qui était ce monsieur, et son combat, lui et ses amis d'ailleurs, puisqu'il n'a pas été seul finalement, lorsqu'il a décidé d'écrire les chroniques du ghetto. Voilà, c'est le point de départ, ça a été ça en fait.
Alors, Emmanuel Ringelblum, donc l'archiviste du ghetto, qui, pendant l'enfermement des Juifs, a archivé dans des bidons de métal tout ce qui pouvait aider à perpétuer la mémoire de ce qui s'était passé. On a retrouvé après la guerre quasiment tous les bidons, il en manque 2 je crois, et ça a été un travail exceptionnel évidemment pour comprendre ce qui se passait à l'intérieur du ghetto, et c'est ça que vous avez mis en avant. Alors, Didier Zuilly,
voilà. Ce travail qu'Emmanuel Regalbium a fait, il l'a fait avec cette conscience pour les générations futures.
Oui.
Les nazis veulent exterminer toute la vie, et donc lui, son travail a été de reconstituer toutes les composantes de la vie que les nazis étaient en train de détruire. Et effectivement, à la fin de la guerre, il fallait transmettre ces milliers de documents, qui d'ailleurs, c'est en même temps des études faites par des journalistes, par des psychologues, et c'est en même temps des dessins d'enfants, c'est en même temps des poèmes, c'est vraiment toutes les composantes de la vie. Et ensuite, effectivement, il a confié à 2 jeunes personnes, dont un qui s'appelle David Graber, effectivement, de cacher ces milliers de documents dans des bidons de lait en fer, qu'on a retrouvé grâce au combat ensuite d'une des personnes qui a travaillé avec lui, qui est une grande, grande dame aussi, qui a été une des piliers aussi de Yad Vashem, qui s'appelle Rachel Auerbach. Voilà. Et c'est grâce au combat après-guerre, parce qu'elle était une seule survivante, qu'on a pu retrouver c'est effectivement ces archives. Une partie, effectivement une partie. Et comment on sait aussi qu'il n'y avait pas l'ensemble, c'est qu'il n'y a pas une seule ligne sur la révolte du ghetto. Alors qu'on sait que bien évidemment la révolte du ghetto pour tous les juifs qui étaient dans le ghetto, c'était leur honneur, c'était leur...
Oui.
Il n'y a pas une seule ligne, alors qu'il a traité de tellement de tous les sujets, les plus petits, les plus grands, mais il n'y a pas de petits sujets quand on est... Il n'y avait pas de petits sujets, en fait.
Bien sûr. Oui. Alors, justement, donc, c'est paru aux éditions Liliane Marouani. J'aimerais savoir, donc, vous l'avez publié d'abord en français. Qui est à l'origine de la graphie? C'est vous également?
Oui, je suis ce qu'on appelle effectivement auteur et illustrateur. Je suis auteur et illustrateur.
Voilà, c'est ce qui me semblait. Donc, ce sont des dessins très sobres. C'est important d'en parler parce qu'évidemment, c'est un roman graphique. Des dessins sobres, très réalistes, qui reprennent à la fois pour les personnages l'environnement historique de l'époque. Comment est-ce que vous avez travaillé pour une telle acuité professionnelle? Dites-nous.
Alors en fait, j'ai la base de tout ce travail a été beaucoup de lecture. Et une fois que j'avais écrit mon texte, alors avec la peur de trahir, ça a été quelque chose de terrible,
oui.
Parce qu'en fait, on lit des choses et on se dit comment une petite bande dessinée, va-t-elle rendre compte de ce cauchemar, de cette réalité ou de ce combat même, puisque je parlais effectivement de la résistance. Donc donc j'ai beaucoup fait des lectures. Tous les livres que j'ai sur cette période-là, ils sont tous écrits, surnotés. Et en fait, à chaque fois que je lisais quelque chose, je me disais tiens, ça c'est important de raconter, ça c'est important. Et petit à petit, comme une sorte hélas d'entonnoir, c'est que toutes les choses importantes, petit à petit, on est arrivé à 9 chapitres. Et au départ, j'en avais écrit 26 de chapitres. Mais quand on sait que j'ai passé 4 ans pour faire 9 chapitres, si j'avais fait 26 chapitres, j'y serais encore. Mais voilà.
Bien sûr. Mais vous racontez très très bien donc toute cette histoire. Et je me suis dit, en fait, peut-être que le choix du roman graphique, c'est une façon de transmettre aussi aux jeunes générations. Vous avez lu les livres d'histoire, entre guillemets, mais vous proposez cette histoire aux jeunes générations également. Est-ce que c'est pour ça? Parce que moi, j'ai senti la transmission au cœur de votre ouvrage.
Oui. Ben, en fait, je pense qu'il y a une personne, un historien qui a dit effectivement, comme les derniers témoins disparaissent, la jeune génération prend en charge effectivement la transmission. Et la jeune génération, si on est romancier, si on est cinéaste, si on est auteur de bande dessinée, si on écrit des romans, et je pense qu'effectivement nous, on utilise avec notre ce qu'on sait faire. Hein, moi, c'est effectivement l'écriture et le dessin. Donc, donc j'ai utilisé effectivement mes outils, hein, puisque je suis dessinateur et auteur, mes outils pour transmettre. C'était ce qui était important. La bande dessinée commence par de la transmission et se termine par la transmission. Hein, la première page, c'est une femme qui a vécu dans le ghetto, qui revient 80 ans après rencontrer les jeunes élèves à Varsovie.
Oui, elle va tout à fait. Elle vient de Brooklyn. Voilà. Oui.
Elle a été sauvée, c'est une enfant sauvée. Elle est devenue historienne, elle est à la retraite. Donc ça commence par une page de transmission, puisque je commence par cette femme qui vient rencontrer les élèves à Varsovie. Et je termine par la transmission, puisque le dernier chapitre, il s'appelle, chaque chapitre a un nom. Celui-ci s'appelle « Ce qui reste », point d'interrogation. Puisqu'en fait, lorsqu'on transmet, on ne sait jamais ce qui va rester.
Bien sûr.
Et on ne sait jamais. Mais il faut le faire, pas ce qui reste.
Alors déjà, en français, vous transmettez cette histoire passionnante et qui est à l'honneur de tous ces combattants résistants, de tous ces juifs qui ont lutté contre la plus grande armée du monde, les armes à la main, à la fois physiquement mais aussi intellectuellement. On retrouve tout dans votre livre. Et vous, tout à l'heure, j'ai dit que vous l'aviez traduit en 4 langues. J'ai oublié l'allemand, Varsovie. Alors, vous l'avez traduit en yiddish, en hébreu, en polonais et en allemand. Donc, pourquoi ces traductions? Je voulais dire que la traduction en yiddish était exceptionnelle. La couverture est commune, sauf qu'en yiddish et en hébreu, le livre s'ouvre de droite à gauche et pas de gauche à droite, comme il se doit. Alors, pourquoi ces traductions, finalement?
Alors, d'abord, il faut remercier les traductrices, parce que en fait, j'ai travaillé avec les traductrices.
Oui.
Effectivement, pour la traduction yiddish, j'ai eu cette grande chance d'avoir Rosine Lobizrensky, qui a été, qui a réclamé que le travail soit, entre guillemets, encadré par Itzhak Tiborsky.
Oui.
Donc, on est, bon. Et donc, yiddish, j'ai commencé par...
Yiddish parfait, c'est ce que j'ai dit.
Voilà. Et donc, j'ai cette chance immense d'être entouré par Rosine et par Itzhak. Pourquoi? Alors, la première bande dessinée a été traduite en yiddish. Et mon souhait, c'était que, alors, je ne parle pas yiddish, je ne parle pas le polonais, je ne parle pas l'allemand, je ne parle pas l'hébreu.
D'accord.
Mais je voulais, voilà, c'est comme ça, mais.
Oui, oui.
Et donc, mais justement, la première bande dessinée a été traduite en yiddish pour une raison très, très simple. C'est quand j'ai travaillé sur cette bande dessinée, j'écoutais beaucoup de musique yiddish. J'écoutais des poèmes yiddish à la radio, etc. Et sur le site Yiddish pour tous, il y a une radio.
Oui,
j'écoute
oui,
énormément.
Bien sûr.
Voilà, je suis très heureux de citer d'ailleurs Charles. Bon rétablissement, Charles.
Oui,
mais,
on peut le dire.
Pas les yiddish parce que les gens dont je parlais, ils parlaient yiddish. Et je me disais que c'était extraordinaire de pouvoir dire, c'est extraordinaire si je puis dire, hein, mais de raconter cette histoire dans la langue qu'il parlait. C'était une façon de dire, on est toujours vivant. Voilà, donc la raison pour les yiddish, c'était, comme
c'était de rendre hommage à la langue qu'il parlait. Mais ensuite, il y en a eu d'autres.
Alors, ensuite, j'ai fait un travail avec un collège en Allemagne, autour de... Ils ont fait un travail extraordinaire, ils ont travaillé plus de 2 ans là-dessus, sur ce projet. J'aurais proposé le thème, qui sera le témoin des témoins?
Oui. Voilà.
C'est une question fondamentale qu'on se pose tous.
Hein, bien sûr.
On est nombreux à se poser, en tout cas. Et donc, ils ont travaillé les élèves de ce collège-là. Et en fait, c'est... je suis allé là-bas avec Régine Loeb, qui est une des traductrices en allemand, d'ailleurs.
Oui.
Non, pas Régine Loeb. Régine Bloch-Fiederer, pardon, oui. Excusez-moi. Bloch-Fiederer, qui a traduit en allemand. Et donc, je me suis rendu en Allemagne. Et effectivement, c'est le travail que j'ai fait avec ces élèves-là et ce professeur d'histoire en Allemagne qui m'a effectivement convaincu qu'il fallait la traduire en allemand. Ça, c'était la raison de l'allemand. Le polonais... et d'ailleurs, je défends 4 langues et maintenant, je me suis arrêté là. Hein, parce que
alors, il nous reste même pas 2 minutes. Alors, le polonais et l'hébreu, dites-nous.
Alors, le polonais, c'est parce qu'en fait, je suis allé à Varsovie plusieurs fois lorsque je préparais cette bande dessinée. Et qu'en fait, ben, c'est là-bas que ça s'est passé. Et je pense que c'est important que le public polonais, les jeunes, c'est important que les Polonais s'emparent aussi de cette histoire parce qu'il faut qu'ils la connaissent. Donc, le polonais, c'est justifié comme celle-ci. Et en hébreu, c'est parce que l'hébreu, enfin, pourquoi traduire en hébreu? Parce qu'en fait, je parle beaucoup avec ma famille en Israël et qu'en fait, très peu connaissent et la résistance juive. Très, très peu. Mais les Français non plus. Il y en a très peu qui connaissent la résistance juive.
Bien sûr.
Hein.
Bien sûr.
Voilà. Et je pense que très peu la connaissent. Et quand je parle avec ma famille, que c'est sur Riegelboom, ils connaissaient pas. Et donc, je me dis, ben, ça aussi, c'est notre histoire juive. Et la résistance, on en sait quelque chose aujourd'hui, hein. On peut dire ça comme ça.
Oui, bien sûr.
Voilà. Voilà, donc parlons-en aussi. Et donc voilà, la motivation pour l'hébreu, c'était celle-ci. C'était pour que les enfants et les grands aussi connaissent aussi cette histoire d'un résistant juif. Voilà, c'était important.
Magnifique. Didier Zuilly, écoutez, c'est un travail remarquable. J'avais envie de le porter à la connaissance de nos auditrices et de nos auditeurs. Alors, où est-ce qu'on peut les commander et comment?
Alors, c'est sur le site de la maison d'édition. Hein, c'est qui s'appelle les éditions. Donc c'est www.leséditionslm.com.
Alors leséditionslm.com. C'est ça?
Tout à fait, tout à fait.
D'accord.
En fait, on a fait
LM comme Liliane Marouani. Voilà. Donc à commander, à s'offrir, à découvrir, à redécouvrir, en tous les cas, des ouvrages qu'il faut avoir à la maison. Didier Zuilly, merci vraiment pour ce très beau travail, tout en profondeur. Et on va terminer avec quelques notes d'un tango yiddish de Varsovie. Et on vous souhaite une très belle journée. Merci pour tout. Au revoir.
Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt.
À bientôt.
Au revoir.
Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian.
Tous les matins à 7h45 sur Radio J, Christophe Barbier.
Je vous retrouve tous les matins dans le 6-9 d'Ilana Ferradian avec un invité politique chaque jour. C'est le Barbier du matin.
C'est tous les jours à 7h45 sur Radio J.
Bonjour, c'est Christophe Barbier. Tous les jours, je suis Jacques Offenbach au Théâtre de Poche Montparnasse pour Offenbach et les Trois Empereurs avec Pauline Courtin et Vadim Cher. Nous sommes le 7 juin 1867. Trois empereurs viennent dîner au Café Anglais et Offenbach doit leur improviser un spectacle. Mais qui sont-ils, ces empereurs? Venez le découvrir au Théâtre de Poche tous les jours à 19h, le dimanche à 15h. Offenbach et les Trois Empereurs.
Radio J.
Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8
et sur radioj.fr.
Radio J.
Radio J, la chronique de Jean-Claude Kupermank, directeur de la bibliothèque de l'AIU, Alliance Israélite Universelle. Jean-Claude Kupermank, bonjour, merci bonjour, d'être avec nous ce matin. Hanouka, la fête de Hanouka, débute dans une semaine. Et comme nous en avons pris l'habitude, vous allez nous faire découvrir une nouvelle histoire liée à la fête et tirée de la bibliothèque numérique de l'Alliance.
Ben oui, Elie, c'était bien mon intention. C'est une petite routine qu'on a mis en place tous les deux. Mais cette fois-ci, je suis tombé sur un récit très politisé et cela m'a donné envie d'en savoir plus.
Alors, dites-nous d'abord, quel est ce texte si politisé? Où et quand a-t-il été imprimé?
Ah oui, c'est quelque chose d'assez étonnant puisque on passe de la révolte des Maccabées à la pensée marxiste. Donc c'est un raccourci oui. qu'on n'a pas l'habitude de voir. Donc nous sommes en 1912 à Alexandrie en Égypte et nous lisons la Revue Israélite d'Égypte qui est l'organe de la société Pro Cultura Israelitica. C'est une société italienne qui promeut la renaissance juive, vecteur du sionisme. Le journal est d'ailleurs partiellement rédigé en italien.
Alors d'accord, mais dans ce cadre, pourquoi nous parlez-vous de marxisme ?
J'y arrive. J'ai été attiré par cet article intitulé « Conférence sur Hanouka » faite par M. J. Rosenthal dans le numéro paru le 15 décembre 1912. Le contenu m'a d'abord surpris et je me suis interrogé sur l'auteur. Donc ce Joseph Rosenthal, 1871-1964, il a vécu très longtemps, est en fait un des fondateurs du mouvement communiste en Égypte. Cet homme a vécu plus de 90 ans, il a fait beaucoup de choses. Il a été impliqué dans tous les mouvements liés au socialisme, au communisme, au syndicalisme, ainsi qu'aux réactions au nationalisme égyptien et à la domination coloniale britannique. Sa vie a été une lutte constante dans une Égypte déchirée entre nationalisme et internationalisme, sectarisme et universalisme, étatisme et anti-autoritarisme. Le trajectoire de Rosenthal est assez intrigant. Cet Ashkenaz, né en Palestine au XIXe siècle, a été un jeune chassid. Puis il a été un artisan, émigré à Beyrouth, puis au Caire et à Alexandrie. Il a été critique contre les idées religieuses qui ne croyaient pas à la lutte des classes et à l'exploitation. En tant qu'anarcho-syndicaliste, internationaliste, syndicaliste, dans le cadre de la montée du nationalisme égyptien, il a aussi tenté de défendre la reconnaissance de sa nationalité égyptienne et le respect de son droit de vote en tant que citoyen juif d'Égypte après la guerre.
Alors, c'est un personnage au parcours bien particulier. Qu'a-t-il à dire, en fait, sur cette fête religieuse de Hanouka?
Ah, c'est toute la question. Donc, Joseph Rosenthal, et là je vais citer beaucoup de son texte,
oui.
considère que la religion, malgré sa base mystique et abstraite, doit être dégagée des dogmes et des superstitions qui sont l'œuvre de l'ignorance du peuple et de l'intérêt des démagogues. La légende de ce vase d'huile sacrée, donc la fête de Hanouka, résonne dans ses oreilles comme un signe de grandeur et de splendeur poétique. Les Maccabées sont les héros de la liberté, jaloux de la sainteté du temple. Mais les Maccabées pensaient que l'esprit de galoute d'exil avait effacé l'étincelle de fierté chez la race juive. Le peuple juif, sans volonté de rébellion ni conscience nationale, avait une âme d'esclave. Le miracle de Hanouka, c'est que seule la lutte permet au peuple de chasser les oppresseurs et de conquérir l'indépendance et la liberté. Mais qu'a-t-il fait le peuple de cette grande fête historique? Et il en a fait une cérémonie religieuse, un commandement de Dieu. Donc la signification du miracle de Hanouka a été dénaturée par le chauvinisme religieux et par le mysticisme et l'ignorance du peuple. C'est ce qui a amené la perte de l'indépendance nationale. Il continue, il y revisite très rapidement toute l'histoire juive du Moyen-Âge à l'émancipation révolutionnaire. Il reconnaît l'importance de la liberté proclamée par les Français. Mais malgré l'élan révolutionnaire, les Juifs comme nation sont restés sans bouger. Il a fallu attendre les révolutions de 1848, l'arrivée de la démocratie, du socialisme, de l'anarchie, de l'internationalisme des travailleurs, pour remarquer les premiers signes d'une renaissance juive. Elle est portée par la poésie et la littérature hébraïque, chauffard, il utilise des mots hébreux et religieux, c'est un homme qui a une formation religieuse, hein. Chauffard de la lutte contre le rabbinisme, le fanatisme. Les journaux hébreux en ont été le porte-parole, à Magid, à Mélide, ses premiers journaux hébreux. Et il parle des premiers pionniers de la liberté. Alors, sa liste est intéressante. Nachman Krochmann, Gordon en Autriche, Crémieux et Albert Cohn en France, Moïse Montefiore en Angleterre. Et pas vraiment des leaders ouvriers.
Pas vraiment,
clairement.
Non.
Rosenthal croit venu alors l'époque d'âge d'or, de l'égalité et de la fraternité. Pourtant, malgré les gigantesques progrès techniques de ce siècle, parle du 19e, qui rapproche le lointain malgré les machines qui facilitent le travail humain, la civilisation moderne n'a point encore apporté les sentiments moraux de solidarité et d'amour. La haine de race n'a pas encore disparu. Les différences illégales entre les classes ne sont pas égalisées, les religions n'ont pas encore complètement évolué, le patriotisme chauviniste ne veut pas encore laisser sa place parce que tant que le capital, ça c'est une phrase clé pour ce texte, tant que le capital sera le dieu, le dominateur, et la science et le travail, les domestiques et les esclaves, exploités par le capital, l'égalité et la justice ne peuvent régner sur la terre. Dans la deuxième partie de sa conférence, Rosenthal s'en prend au sionisme politique. Il constate que le système d'oppression ont fait des juifs le bouc émissaire pour canaliser la colère du peuple spolié, d'où les pogroms. Et devant cette grande déception, une grande partie des Juifs a perdu toute confiance et toute foi dans les progrès humains. Mais les nouveaux Maccabées se sont levés. Alors là, il parle des sionistes. Ovevet Zion.
Donc pour lui, voilà. Les sionistes sont les nouveaux Maccabées.
Mais, il y a un gros mais.
Oui.
Il parle d'un nouveau miracle, un Nes Hanouka. Mais ils n'ont pas éloigné les nuages du mysticisme.
Ah,
c'est
oui.
Ça qu'ils leur reprochent. Pour combattre l'antisémitisme, le nationalisme, l'assimilation, on voudrait nous reconduire vers le passé en Palestine, dans le pays qui a été le berceau de toutes les religions, avec l'espoir que nos généreux rois des finances, là, Rothschild, veuille bien porter à Tzion Yerushalayim le moderne bien-être économique. Nous redevenons mystiques, nous oublions qu'il ne peut pas exister un sentiment de solidarité entre la puissance du capital et la misère du peuple travailleur.
Alors, je rappelle que donc c'est Joseph Rosenthal qui écrivait tout ça. Hein.
Qui parle dans un journal publié à Alexandrie en 1912.
Oui.
En conclusion, Joseph Rosenthal vante une idée universaliste du peuple juif. Et quels sont ses modèles juifs? C'est Maïmonide, Spinoza, Karl Marx, Bernard Lazare, Théodore Herzl. Donc, tous des gens qui ont un rapport bien particulier avec l'idée religieuse.
Bien sûr.
Donc, on va conclure avec lui. Oui, nous devons affirmer notre existence, mais nous ne devons pas nous isoler et nous entourer d'une muraille chinoise. Nous devons toujours unir notre sort à celui de l'humanité qui évolue vers son affranchissement. Nous devons aimer et respecter notre histoire, nos martyrs, mais le passé ne doit pas nous hypnotiser pour nous empêcher de vivre le présent. Il ne faut point craindre la critique inspirée à la liberté et anxieuse de lumière. Oui, nous voulons et nous espérons devenir un peuple libre dans une libre humanité. C'est une référence directement à la Tikva, hein.
Oui.
Mais on est en 1912. Et car à l'heure seulement, nous pourrons fêter la grande fête de Hanouka, la fête des lumières, de la liberté et de la justice. Voilà un discours.
C'est incroyable, c'est hein, presque.
Dans un journal juif, alors c'est un journal juif qui est proche de la franc-maçonnerie.
Oui.
Donc, qui, même à l'époque, ne devait pas apparaître comme satisfaisant pour de nombreux auditeurs juifs, lecteurs juifs. D'ailleurs, la revue précise, dans une petite note en fin d'article, c'est la seule fois que je trouve dans la revue, la direction de la revue, tout en n'étant pas d'accord avec le conférencier sur plusieurs points essentiels de ses considérations, a cru opportun de publier ce discours, dont l'importance n'échappera pas au lecteur.
Et on les remercie parce que grâce à cela, on a le texte encore aujourd'hui. Voilà. Et d'ailleurs, je voulais juste terminer en disant que de nombreuses associations juives dites laïques avaient gardé le symbole de la lutte de la fête de Hanouka.
Absolument.
Encore aujourd'hui, c'est important de le préciser.
C'est une fête qui peut être comprise, effectivement, dans plusieurs sens. Et,
oui.
Et je suis pas sûr que l'ouverture d'esprit de ces rédacteurs d'Alexandrie en 1912 soit encore tout à fait partagée dans le débat juif aujourd'hui.
C'est vrai. Alors, merci une fois de plus, cher Jean-Claude Kupermanck, de nous avoir permis d'avoir accès à cette belle histoire de Hanouka, mais qui n'est pas traditionnelle
tout. Merci. Mais n'oubliez quand même pas d'allumer vos bougies.
Non, bien sûr. Merci. Au revoir.
Merci, Lise. Au revoir.
Radio J.
Radio J.
Le 10-11. Le 10-11. Lise Goodman.
Radio J.
Et c'est l'heure du rappel des titres à la une de l'actualité. Le 453e jour de guerre. Et les négociations pour la libération des otages et un cessez-le-feu à Gaza mal parti. C'est en tout cas ce qu'affirment des responsables arabes au Washington Post ce matin. Le Hamas exige une pause de 7 jours dans les combats pour faire la liste des otages, toujours 100 retenus à Gaza. Le groupe terroriste affirme qu'il n'est pas en mesure de produire cette liste des otages encore vivants sans arrêt des combats. Et Israël tient à cette liste de crainte que le Hamas ne puisse tuer des otages entre la conclusion d'un accord et leur libération. Minuit pile, c'est à sa façon que le Hamas a fêté le passage à l'année civile 2025. En tirant des roquettes contre Israël, les sirènes d'alerte se sont déclenchées dans la région du Negev occidental. Il y a une des roquettes qui a pu être interceptée et l'autre qui est tombée dans une zone inhabitée. Il n'y a pas eu de blessés. L'armée israélienne et le Shin Bet ont éliminé l'un des commandants des forces d'élite du Hamas, celui qui a dirigé l'infiltration dans le kibboutz Nir Oz lors des massacres antisémites du 7 octobre l'année dernière. L'élimination de ce commandant du Hamas n'est qu'une étape vers la justice, affirment les responsables du kibboutz martyr. Politique, Benjamin Netanyahou de retour à l'hôpital à Hadassah. Il a quitté sa chambre hier contre l'avis des médecins après son opération de la prostate. Le Premier ministre a voulu aller prendre part au vote d'une loi clé à la Knesset relative au budget de l'État. Le texte a été adopté de justesse par 59 voix contre 58. Antisémitisme, un homme armé arrêté pour avoir planifié d'attaquer un bureau de l'AIPAC en Floride. Le lobby américain pro-israélien remercie le FBI d'avoir déjoué l'attentat. Les vœux d'Emmanuel Macron, le président de la République s'y est prêté pour la 8e fois hier soir et pour la première fois depuis la nomination de François Bayrou. Il a entre autres fait son mea culpa sur son initiative de dissoudre l'Assemblée nationale.
Radio J.
Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8
et sur radioj.fr. Vous écoutez
Radio J.
Radio J.
Radio J.
Radio G.
C'est uniquement sur Radio G.
Radio J.
Radio J.
Radio J.
Radio J.
Le 10-11. Le 10-11. Lise Goodman.
Radio J.
Radio J.
Le cinéma parlant. Lynn Tobiana.
Lise Goodman.
Bonjour, Lise n'est pas avec moi aujourd'hui car elle profite, je l'espère, de quelques jours de vacances bien mérités et on l'embrasse fort. Alors avant de vous parler des 4 meilleurs films 2024 selon mon avis personnel, je vais vous parler d'abord de 2 films sortis aujourd'hui même, 25 décembre, qui sont mes 2 coups de cœur de la semaine, mes 2 cadeaux de Noël et Hanouka que je veux vous faire partager. Alors tout d'abord, un film d'époque, Le Déluge, de Gianluca Giudice, avec Guillaume Canet et Mélanie Laurent, dont dans les rôles respectifs de Louis XVI et Marie-Antoinette. Nous sommes en 1793 et le réalisateur s'est attaché aux dernières semaines du couple royal, emprisonné avec leurs 2 enfants dans une forteresse à Paris, la Tour du Temple, en attendant bien sûr leur exécution à la guillotine. Alors ce film est librement inspiré des carnets de Cléry, valet de chambre du roi, et qui est resté auprès de lui jusqu'à sa mort.
Sire, j'ai ordre de vous accueillir, vous et votre famille, ici à la Tour du Temple.
Vive la France ! Vive la Révolution !
Dans un premier temps, c'est ici que vous dormirez ?
Ce doit être une erreur. Il ne s'agit que de quelques jours. Bientôt, nous retournerons à nos bals masqués.
Nous pouvons enfin de ne pas comprendre que ce temps appartient désormais au passé.
Extinction des feux !
Sire, mais de Paris a fait assaut.
Mais pourquoi ?
La Convention a décrété à l'unanimité l'abolition de la monarchie.
Vous faites maintenant partie des simples citoyens et c'est ainsi que vous serez traités.
Et aussi jugés en tant que tels, je l'espère. Ne regardez pas.
La Convention nationale déclare Louis Capet, dernier roi des Français, coupable d'attentat contre la sécurité générale de l'État.
Son seul tort, c'est d'être roi.
Je n'ai pas compris le sens de leurs accusations.
J'ai demandé pardon.
Vous ne devez pas avoir peur. Je crois que notre affaire est en bonne voie.
Je ne supporte plus ta stupidité indécente ! Pendant que ces bandits nous torturent !
Lorsque tout sera fini, nous pourrons nous aussi trouver une place dans ce nouveau monde.
Alors, cette tragédie de la réclusion du couple royal est représentée dans une mise en scène très dépouillée, un huis clos très intimiste. Le réalisateur a réussi à humaniser ces personnages historiques de Louis XVI et Marie-Antoinette, à les montrer dans un grand dénuement qui contraste bien sûr avec leur grand apparat d'autrefois. Alors on voit peu à peu tomber tous les masques sociaux de la famille royale. Par exemple, on ne leur donne plus de couverts et ils mangent avec leurs mains. Pour moi, c'est un film très réussi et on est en totale empathie avec leurs souffrances et leurs lentes déchéances. Guillaume Canet et Mélanie Laurent sont excellents dans l'interprétation de ce couple mal assorti. Louis XVI est représenté comme un roi timide, un peu ridicule. Il a le visage et la silhouette épaissie. On a du mal d'ailleurs à reconnaître Guillaume Canet. Et quant à Marie-Antoinette, eh bien, elle est aussi très bien incarnée par Mélanie Laurent, qui elle est belle et séduisante, mais lucide et cruelle envers son mari, comme on l'a entendu d'ailleurs dans la bande-annonce. Voilà donc un point de vue original sur cette chute de l'ancien régime, sur la chute du roi et de la reine, comme on les a jamais vus. Il faut noter aussi la beauté des plans, des décors et des costumes, donc à voir Le Déluge de Gianluca Giudice. Eh bien, je vais parler à présent maintenant de mon autre grand coup de cœur de la semaine, d'un film qui sort aujourd'hui même. C'est le documentaire biopic poignant qui a d'ailleurs été consacré par l'œil d'or du documentaire 2024 à Cannes. Il s'agit de Ernest Cole, photographe. Un film de Raoul Peck. Alors, qui était Ernest Cole ? C'était un Sud-Africain qui a été le premier à exposer au monde entier les horreurs de l'apartheid, donc en Afrique du Sud, et il a été contraint pour cela, à 27 ans, à un exil définitif. C'était un photographe exceptionnel. Il faut savoir qu'en 2017, on a découvert dans une banque en Suède 60 000 négatifs signés Ernest Cole. C'est un artiste puissant que nous fait découvrir Raoul Peck, mais j'ai eu l'honneur et le grand bonheur d'interviewer Raoul Peck. Raoul Peck, que je présente brièvement, hein, s'il en est besoin. C'est une personnalité à la fois artistique et politique. C'est un réalisateur, un scénariste et un ancien ministre de la Culture d'Haïti jusqu'en 1997. Et il est également président du conseil d'administration de l'école de cinéma de la FEMIS à Paris. Voilà, alors il est connu pour ses films Je ne suis pas votre nègre, I am not your negro, qui a eu le prix Louis Deluc, pour son film sur Lumumba, sur le jeune Karl Marx, et aussi sur une série qui a eu énormément de succès, qu'on a pu voir à la télévision, c'est L'école du pouvoir. L'école du pouvoir, c'est-à-dire l'ENA. Alors écoutons à présent Raoul Peck.
Bonjour Raoul Peck.
Bonjour.
Votre film est une autobiographie photographique d'Ernest Cole, avec la voix narrative d'Ernest Cole à la première personne. Alors pourquoi ce parti pris que je trouve très judicieux ?
Alors d'abord parce que justement je voulais pas simplement faire un film biographique, je raconte une histoire et il faut que cette histoire fonctionne et qu'on puisse revoir ce film plusieurs fois comme on rentre dans un récit. Et le fait de laisser Cole raconter lui-même cette période de sa vie, c'est quelque part lui redonner le pouvoir sur son propre destin. Il a disparu pendant plusieurs décennies. On n'a jamais su vraiment ce qui s'était passé. On a occulté ou on a évité d'aller chercher pourquoi. Et donc c'était une manière pour moi de lui redonner du pouvoir sur son propre récit et qu'il soit pas une victime, mais qu'il soit quelqu'un qui raconte sa vie, qui était une vie de combat et qui nous a livré une œuvre extraordinaire et rare.
Oui, un témoignage pour l'histoire, notamment sur l'horreur de l'apartheid.
Oui, il a été le premier à photographier le quotidien de l'apartheid, tout en sachant que chacune de ces photos était déjà par définition un crime interdit, puisque l'apartheid c'est aussi un pays de censure. Les magazines, les journaux sont censurés. On n'a pas le droit de publier sans passer par la censure. Donc il sait au départ que toutes ces photos ne pourront jamais être publiées en Afrique du Sud. Donc c'est un sacrifice qu'il fait dès le départ et il documente ce qu'il appelle, il documente la condition humaine. Et c'est ça qu'il va faire à une époque où personne, même les journalistes européens qui allaient travailler en Afrique du Sud, plusieurs ont été expulsés de l'Afrique du Sud parce qu'ils se sont permis d'être critiques par rapport à ce qu'ils voyaient. Donc il était clair pour Cole que jamais il pourrait lui publier quoi que ce soit en Afrique du Sud. Donc ces photos étaient les premières à dévoiler dans toute son intimité l'horreur de l'apartheid.
Et c'est ce qui a déclenché d'ailleurs son exil, hein, un exil forcé à New York et en Europe. Alors on voit dans le film son parcours, son errance et la désillusion qu'il a connue en exil et notamment à New York.
Ouais. Alors, d'abord, quand on quitte son pays dans des conditions pareilles, d'abord, pour lui, il s'agit de sauver ses négatifs. Il s'agit de sauver près de 10 ans de travail. Mais quand on quitte son pays, on n'a pas forcément l'idée que ce soit pour toujours. D'ailleurs, sinon, on ne se battrait plus. On trouverait un compromis et puis on se mettrait dans un coin pour mourir. Donc c'est au fur et à mesure qu'il se rend compte. Il se rend compte d'abord, arrivé aux États-Unis, le livre est édité, immense succès, le monde entier en parle, il est interdit en Afrique du Sud et les portes se referment puisqu'il est banni. Donc ça veut dire officiellement banni, son passeport n'est pas renouvelé. Donc il est apatride. Et là, la situation, bien entendu, se fige, puisqu'il réalise les conséquences. Ensuite, il se heurte à un deuxième mur, c'est qu'il se rend compte qu'on essaie, on le considère exclusivement comme un photographe noir. Alors que pour lui, il est tout simplement un photographe. Pour lui, le monde s'ouvre, puisqu'il quitte l'enfer pour aller dans ce qu'on appelait à l'époque le monde libre. C'était ça, la propagande.
C'est là où on peut faire un parallèle avec Baldwin, hein, et I'm not your Negro.
Absolument, voilà. Absolument. Baldwin quitte les États-Unis pour pouvoir comprendre son propre pays et pour pouvoir échapper, comme il le dit, à la mort. Parce que pour lui, il était persuadé qu'il mourrait très jeune s'il continuait à vivre comme il le faisait aux États-Unis. Donc pour Ernest Cole, il se heurte à quelque chose qu'il n'avait pas pensé. Peut-être qu'il avait été naïf de croire que le monde libre était très certainement libre pour lui aussi.
Comme beaucoup d'exilés d'ailleurs, hein, il y a toujours un rêve qui ne correspond pas à la réalité.
Oui, oui, et c'est la nature humaine. C'est quand on est dans un pot d'eau bouillante, quel que soit sortir de ce pot est forcément mieux. Mais on sous-estime parfois le monde qu'on va découvrir. Donc lui, il a dû lutter contre ça. Et puis le fait que, comme il le dit au début du film, qu'il refusait de devenir un chroniqueur de la misère. Parce que c'était les types de missions qu'on lui demandait.
Alors qu'il rêvait de parler de mode, de
oui, il avait,
chose.
Comme tout photographe, surtout au début d'une carrière, on rêve de faire beaucoup de choses. On rêve, tout artiste, si on mettait des rails à un artiste, il périrait rapidement.
Bien sûr.
Un artiste, il explore. Ça va avec le territoire, comme on dit en anglais. Donc, de sentir rapidement un mur autour de lui, c'est absolument déprimant. D'autant que l'un de ses modèles, c'est Cartier-Bresson, qui lui a voyagé le monde entier pour faire ses photos. Cette liberté, ce privilège, il comprend très vite qu'il en était exclu. Donc, voilà, à 26, 27 ans, ça vous bouche l'horizon assez sévèrement.
Oui, il a connu presque une descente aux enfers, parce que on le voit dans le film, il envisage même le suicide.
Ça vient beaucoup plus tard.
Plus tard.
Puisque, encore une fois, on quitte son pays, mais on ne s'imagine pas que l'apartheid va encore durer pratiquement 30 ans. Donc c'est beaucoup de temps, c'est toute une vie. Et vous pensez avoir quitté l'enfer, mais l'enfer ne vous quitte pas, puisque vous êtes en contact, vous restez en contact avec votre famille, avec les amis. Vous apprenez par la radio, la télévision, ce qui se passe dans votre pays, les tueries, les assassinats, les kidnappings, les tortures, les massacres d'étudiants ou d'écoliers. Donc tout ça, c'est pas de l'histoire ancienne, c'est pas de l'histoire à l'autre bout du monde. Vous le vivez dans votre tête, dans votre corps.
Donc, comme dans une forme aussi de schizophrénie.
Ça peut aller jusqu'à la schizophrénie, bien entendu. Surtout lorsque vous êtes isolé dans un territoire qui ne vous accueille pas forcément les bras ouverts, ou qui vous assigne une place dans laquelle vous n'êtes absolument pas à l'aise.
Alors, votre cinéma, Raoul Peck, est un cinéma engagé, humaniste, donc qui combat contre toutes les formes de ségrégation. Est-ce que vous avez aussi des projets de combat contre d'autres formes de ségrégation, par exemple la ségrégation la raciale, mais aussi antisémite?
Écoutez, je ne me suis jamais posé la question ainsi, dans la mesure où mon travail, et depuis que je suis cinéaste, d'ailleurs je suis devenu cinéaste à travers le politique. C'est le politique qui m'amène à ça. Donc je traite de tous les thèmes qui sont présents dans ma vie et autour de moi à des moments différents. La question, par exemple, de l'antisémitisme, dans tous mes films, ou souvent, j'ai parlé par exemple de l'Holocauste. Parce que j'ai passé 15 ans en Allemagne, j'ai étudié en Allemagne, j'ai fait deux études consécutives en Allemagne, un pays, je l'ai d'ailleurs dit dans l'un des films, que pas un jour j'ai oublié ce qui s'était passé dans ce pays. Donc c'est quelque chose de présent, l'esclavage, l'Holocauste, l'élimination des Indiens d'Amérique, tous ces catastrophes humaines ont toujours été inclus dans mon travail. c'est ce qui me donne d'ailleurs la liberté de parler librement de tous ces sujets, parce que je ne les ai jamais enterrés. Ils ont toujours fait partie de mon travail politique et de mon travail artistique.
Voilà, donc vous venez d'entendre Raoul Peck parler de son engagement de cinéaste, mais aussi sur son film Ernest Cole photographe, un documentaire qui est sur tous les écrans. D'ailleurs, on peut voir des grandes affiches dans le métro du portrait d'Ernest Cole. Eh bien, on va parler à présent de mes quatre meilleurs films 2024 dont on a parlé avec Lise tout au long de l'année. Alors, d'abord, je commencerai par La zone d'intérêt de Jonathan Glaser. Rappelez-vous, c'est un film qui met en scène Rudolf Höss, le commandant d'Auschwitz, qui vit avec sa famille, une famille nombreuse, dans une maison de rêve dotée d'un grand jardin, tout à côté du camp d'Auschwitz. Alors c'est un film très original, ce film La zone d'intérêt, parce qu'il est basé sur le son, le hors-champ. Et on ne voit rien du camp. Et Jonathan Glaser montre par là même, selon sa propre formule, le pire de la déshumanisation. Et selon Spielberg, qui est quand même une référence en la matière, eh bien pour Spielberg, c'est le meilleur film sur l'Holocauste, ce film La zone d'intérêt. C'est un film intense sur la banalité du mal absolu, un chef-d'œuvre marquant, glaçant, assez dérangeant, c'est vrai, très puissant d'un point de vue narratif et formel. C'est une leçon de cinéma radicale à ne pas rater, à voir et à revoir. Et enfin, dans un tout autre genre, un film bouleversant mais très drôle cette fois, Le dernier des Juifs de Noé Debré avec Michael Zindel et Agnès Jaoui. C'est aussi une tragédie mais racontée à la façon d'une comédie audacieuse. Voilà, c'est l'histoire de Belisha qui vit chez sa mère à Sarcelles, et ce sont les derniers juifs de la cité, car peu à peu, on le sait, les juifs quittent la cité de Sarcelles où sévit l'antisémitisme pour Israël ou pour le 17e arrondissement. Voilà, c'est un film drôle et profond avec des dialogues savoureux dont on va avoir un échantillon dans la bande-annonce. Écoutons.
Allez mec, j'ai attrapé un juif qui veut l'égorger pour aller au paradis.
T'as été à ton cours de Krav Maga ?
Oui, bien sûr. Mais ça commence à être un peu trop facile pour moi.
Qu'est-ce qu'il y a comme noir, dis donc ?
Ils sont passés où, les Arabes ?
Vous n'avez plus de poulet ?
Non, on n'a plus de poulet, monsieur. On ferme. C'est fini, toute la communauté, ils sont partis d'ici.
Ah bon ?
Mais on va aller où, nous, maintenant ?
Faut qu'on parte, hein. Je te le dis, moi.
Oh, monsieur Belisha, c'est gentil de venir me voir.
Mais je vous en prie.
Tu veux pas me dire des trucs sales en hébreu ?
Venu shalom aleichem.
C'est trop joli.
Il va y avoir la guerre, je te dis.
Ah mince, c'est officiel, genre.
Non, mais tout le monde le sait déjà sur WhatsApp.
Ça, c'est parti commune, ça.
C'est quoi ce boucan ? Ça y est, ils ont raflé les Chinois ?
De nombreuses personnes de la communauté israélite déménagent de notre ville.
Il faut qu'on parte.
Nous aimerions organiser une petite cérémonie.
D'accord, mais...
Très bien, parfait. Quel jour vous arrangerait ?
Bam. J'aime pas trop les juifs de base, mais toi, je t'aime bien, toi.
Parfait, merci beaucoup.
Bonjour. Je voulais vous réconforter un petit peu avec quelques petits plats, du blé.
Merci.
Toi aussi, il faut que tu partes.
En tout cas, moi, j'ai pas peur. Donc toi aussi, c'est pas la peine d'avoir peur.
Voilà, c'est un premier film émouvant et mélancolique de Noé Debré qui sonde la judéité et les préjugés avec beaucoup, beaucoup d'humour. On peut souligner la performance de l'acteur Michael Zindel, que j'avais d'ailleurs interviewé à Cabourg, au Festival de Cabourg. Il joue un rôle d'anti-héros, loufoque, lunaire. Et voilà, et il forme avec Agnès Jaoui un duo comique formidable. Donc, à voir Le dernier des Juifs de Noé Debré. Mon troisième film, c'est Carla et moi de Nathan Silver. Une comédie, là aussi, corrosive, ou plutôt aussi une tragicomédie, une perle du cinéma indépendant new-yorkais, avec Jason Schwartzman et Carol Kane. Ben et Razan, chanteurs de synagogue, et suite à la disparition de sa femme, il a perdu sa foi et sa voix. Sa voix, ce qui est quand même assez dérangeant pour un Khazan. Eh bien, il est évidemment dépressif. Sa mère ne cesse de lui organiser des rendez-vous pour qu'il puisse se remarier. Mais une rencontre avec Carla, son ancienne prof de musique, plus âgée que lui, quelque peu déjantée, va le remettre sur pied. Voilà, ce film judéo-américain très atypique est une sorte de comédie romantique décalée, portée là aussi par un duo charmant qui fait penser d'ailleurs à Harold et Maude. C'est un film sensible et décapant à voir absolument. Et enfin, je terminerai par ce film vraiment que j'ai adoré, La plus précieuse des marchandises de Michel Hazanavicius. Un film à voir en famille et je pense peut-être à partir de 12 ans. Alors c'est un, pour les fêtes de Noël et de Hanouka, il n'y a pas mieux que de voir ce film, ce conte doux amer bouleversant de Jean-Claude Grimbert, adapté au cinéma par Michel Hazanavicius. Un film d'animation magnifique. Écoutons ce conte raconté par la voix extraordinaire de Jean-Louis Trintignant.
Il était une fois, dans un grand bois, un pauvre bûcheron et une pauvre bûcheronne. Le froid, la faim, la misère leur rendaient la vie bien difficile. Et puis, un jour,
qu'est-ce que c'est que ça? Sais-tu pas à quelle espèce il appartient? C'est un sans-cœur!
À mort le sans-cœur!
Les sans-cœurs ont un cœur.
C'est toujours émouvant d'écouter le battement du cœur de cet enfant dans ce film. Alors nous avions eu aussi le plaisir et l'honneur d'avoir Michel Hazanavicius dans les studios de Radio J, donc qui a parlé de son film. Son film d'ailleurs qui n'a pas eu la Palme d'Or qu'il aurait mérité vraiment largement, mais comme il l'a dit avec humour, c'est un film qui n'a pas de prix. Voilà, alors donc c'est un chef-d'œuvre cinématographique et littéraire et aussi esthétique. Il faut souligner le talent de dessinateur de Michel Hazanavicius. Voilà, il a su reconstituer par le chemin du conte les années 1940 et la déportation avec énormément de délicatesse. C'est un bijou d'animation qui se termine par ces Barry Sisters qu'on adore, Cherry Bim, Cherry Bom. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de bonnes fêtes, de bonnes vacances, une bonne fête des lumières, mais aussi des salles obscures. Merci à Serge Surpin à la réalisation et on se retrouve au prochain Cinéma Parlant avec Lise Gutmann. Bonne journée et bon film.
Radio-Z.